affinités électives. Une émission proposée par Canal Académie.
Chers amis, bonjour, vous êtes bien à l'écoute de Canal Académie, merci de votre fidélité. Dans notre émission de ce jour, nous allons effectuer un formidable et surprenant voyage dans le temps et dans l'espace, mais peut-être est-ce d'ailleurs la même chose, en nous projetant aux origines de l'univers et en examinant la théorie du Big Bang. Oh, bien sûr, cette théorie, chacun pense la connaître. Certains diront qu'il s'agit de l'explosion initiale, d'autres que c'est le point de départ de l'univers. Les plus concis, les plus avisés parviendront même à énoncer qu'il s'agit de la théorie selon laquelle l'univers a commencé dans un état extrêmement chaud et concentré. De la sorte, chacun formulera des vérités, des imprécisions. Et nous allons découvrir au fil de l'émission qu'en effet, tout est beaucoup plus compliqué qu'on ne le croit toujours dans la vie en général, mais particulièrement en science. En effet, derrière ces mots si éloquents de simplicité, Big Bang, se cache une théorie qui a été enrichie au fil du temps par les chercheurs, par des théoriciens, par des gens qui pratiquent l'observation, et bien sûr par leur dialogue. Par chance, nous n'aurons pas à reprendre l'ensemble du raisonnement, car il va nous être livré tout cuit, car nous avons la chance de recevoir dans notre studio Françoise Combes. Madame, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Je précise que vous êtes professeur au Collège de France où vous occupiez la chaire Galaxie et Cosmos, que vous êtes membre, bien sûr, de l'Académie des sciences et que vous avez publié récemment le Big Bang aux éditions Que sais-je, et qu'il s'agit donc d'une somme dense, comme les débuts de notre univers, mais concise, ce qui convient parfaitement à notre désir d'en savoir plus. Mais ma première question portera sur ce terme de Big Bang, qui sonne plus médiatique que scientifique.
Oui.
D'où provient-il ?
Oui, ce Big Bang, ça peut paraître puéril, en fait. Hein. Et c'était en effet l'astronome anglais Fred Hoyle, très célèbre pour sa découverte de la nucléosynthèse des éléments dans les étoiles, qui n'aimait pas du tout cette théorie du Big Bang. Et pour s'en moquer, il faisait des émissions à la BBC, il était très charismatique, et il avait un grand public, et il avait baptisé cette théorie de Big Bang. En fait, il n'avait pas de nom au début, c'était juste l'atome primitif, si on peut dire, l'explosion initiale. Il a parlé de Big Bang pour vraiment s'en moquer.
C'est ça, il faisait des émissions de vulgarisation scientifique, et si j'ai bien retenu, c'était juste après la Seconde Guerre mondiale,
dans les années
40.
Voilà, exactement, 45-50.
Oui. Mais la théorie elle-même, même si elle ne portait pas encore ce nom-là, est plus ancienne.
Oui,
on peut faire l'archéologie de la théorie avant de faire l'archéologie de l'univers.
Elle date finalement de 100 ans, en fait, hein, il y a un siècle. C'est juste au début du XXe siècle, on ne savait pas exactement même si les galaxies existaient, ce qui est curieux. On pensait qu'il y avait des nébuleuses, on appelait ça la nébuleuse d'Andromède, par exemple, qui est la galaxie la plus proche, on l'appelait nébuleuse. On pensait que c'était des nuages de gaz qui étaient dans notre propre galaxie et que notre galaxie est tellement grande qu'elle contenait tout l'univers, en fait.
Oui, parce que quand on les observait, ça ressemblait à quelque chose de laiteux.
Voilà, de laiteux. On n'arrivait pas à connaître les distances. Et c'est ça, le gros problème. Tout est projeté sur le ciel. On ne sait pas à quelle distance sont les astres, les étoiles, les galaxies. Et tout a commencé avec Einstein, finalement. Il a mis les bases de la relativité générale qui donne une théorie de la gravité au-delà de Newton. Donc la gravité, ça veut dire que ce n'est plus une force comme les autres, c'est une force qui courbe l'univers. Donc si on a un gros astre comme le Soleil, les photons vont être déviés par le Soleil. Donc la courbure de l'univers est reliée à tout ce qui est à l'intérieur de l'univers. La matière, l'énergie, tout ça détermine la forme de l'univers. Et puis il a écrit donc ces équations, la courbure qui est fonction de la densité, et puis il s'est aperçu qu'on pouvait en déduire le destin de l'univers, en fait. Et en fait, il s'est aperçu assez vite que dans ces équations, si on arrivait à une solution, c'était soit un univers qui est en expansion, soit un univers qui est en effondrement, mais il n'y avait rien de statique. Et ça, ça l'ennuyait beaucoup. Parce qu'il pensait que tout était dans l'univers, tout est calme, statique. Dans
c'est la, une idée rassurante, il faut reconnaître.
Voilà, c'est rassurant. On a l'impression que les étoiles ne bougent pas, qu'il y a beaucoup d'activité sur Terre, mais dans l'espace. Et donc, il avait cette idée-là et il s'est dit, bon, ça ne va pas du tout, ces équations. Je vais rajouter une constante pour, justement, faire un univers stationnaire. Et il a rajouté cette constante. Et puis, juste à ce moment-là, les astronomes commençaient à calculer, enfin mesurer la vitesse des objets par effet Doppler, un peu comme on mesure la vitesse d'une voiture par radar. Donc on mesurait le spectre de ces galaxies, enfin de ces galaxies qu'on sait aujourd'hui être des galaxies, des nébuleuses. Et les Vestoslifer avaient remarqué que toutes ces nébuleuses s'éloignaient de nous avec une grande vitesse, même quelques milliers de kilomètres par seconde. C'est beaucoup quand même.
Parce que donc, si j'ai bien compris, la lumière, lorsqu'elle nous parvient, plus elle provient de loin, plus elle prend un spectre rouge.
Voilà, elle rougit par l'effet Doppler. Voilà. Et donc, elle s'éloigne. Et pour l'instant, c'était un peu surprenant. Personne n'avait déduit quoi que ce soit. Et puis, peu à peu, Edwin Hubble, puisque maintenant on l'appelle loi de Hubble, mais on va voir qu'il y avait aussi l'abbé Lemaître, à cette époque-là, un Belge, qui avait vu encore plus loin que Hubble, il avait vu que si on regarde dans le temps, alors si les galaxies s'éloignent toutes de nous, mais si on revient dans le passé, elles devaient être tous en même point. Donc c'est lui qui avait parlé d'atomes primitifs et qui finalement est l'origine de cette théorie où tout explose en un point et puis tout s'expand. Alors qu'on l'appelle loi maintenant de Hubble-Lemaître.
Oui, vous puisque... précisez dans le livre lors du congrès de l'Union Astronomique Internationale à Vienne en 2018, c'est
oui,
récent.
C'est très récent.
Il était décidé de rebaptiser la loi de Hubble en loi de Hubble-Lemaître.
Ce qui prouve... Pour rétablir la paternité de cette théorie, oui. Finalement.
Ça prouve le sens de la vérité qui peut animer le monde scientifique, puisqu'il ne s'agit pas seulement de se projeter dans les théories à venir, mais même de réparer les erreurs du passé.
Voilà. Très bien. Et donc c'est quand même Lemaître qui a eu cette idée que peut-être tout l'univers que l'on voit autour de nous, jusqu'à un certain horizon, eh bien tout ça était dans le passé réuni en un point. Ça paraît invraisemblable. C'est pour ça que cette théorie du Big Bang a eu du mal à s'implanter, puisque pendant des années, jusqu'à 1945-50, où il y avait encore Fred Hoyle qui, à la BBC, se moquait de cette théorie, et l'appelait Big Bang, et ça a eu du mal. C'est pas intuitif de penser que nous sommes tous réunis dans un point.
Oui, ça oui, et puis que les choses ne soient pas stables, c'est-à-dire à échelle humaine, elles sont tellement stables, et nos représentations mentales, j'imagine, transmises de génération en génération, ne faisant pas état de modification dans l'univers, ce sont les seules choses qui restent infiniment stables, les
voilà.
Étoiles qu'on voit dans le ciel.
Voilà, l'échelle de temps
et
est
donc,
pas la même.
Et donc revenir contre cela, ça prouve quand même le pouvoir de la connaissance scientifique, mm-hmm. Puisqu'on va à l'encontre
de l'intuition
et de ce qui est sensible,
voilà.
Même... au-delà de ses propres générations.
Voilà, exactement. Ce n'est pas les mêmes échelles humaines. C'est une échelle de milliards d'années. Alors, on n'est pas à 100 ans, on est à milliards d'années. Et donc, c'est pour ça que ça nous apparaît stable. Mais quand on regarde, finalement, il est en expansion assez rapide.
Alors, dès lors qu'il y a ça, si je comprends bien, il faut se poser la question du modèle ou des modèles d'univers, puisque s'il n'est pas instable,
voilà,
qu'est-il ?
C'est ça. Et donc, on s'est posé la question. Alors, c'est le moment où on commençait à voir aussi des distances. À quelle distance étaient ces galaxies ? C'est là qu'une femme, un astronome, Henrietta Leavitt, avait découvert un indicateur de distance qu'on utilise encore aujourd'hui, avec le télescope spatial Hubble, justement, qui sont les étoiles variables qu'on appelle les céphéides, parce qu'elles sont dans la nébuleuse de céphéides. Donc ces étoiles ont une périodicité qui est fonction de leur luminosité intrinsèque. Et ça, c'est très, très précieux. Ça veut dire qu'il suffit de mesurer leur variabilité et on sait combien elles doivent briller. Donc si elles brillent beaucoup moins, c'est qu'elles sont plus lointaines, donc on a leur distance. Et on a pu déterminer comme ça des céphéides dans les galaxies proches, et c'est comme ça qu'Hubble a pu dire « bon ben, ces galaxies, elles sont très loin, elles ne sont pas dans la Voie lactée du tout ». Et c'est là que cette loi où la vitesse de ces galaxies, la vitesse d'éloignement était proportionnelle à leur distance, est apparue, grâce à la distance qui était déterminée par Henrietta Leavitt. Donc ça, c'est une loi qui nous sert encore aujourd'hui pour savoir... à quelle distance mettre cet objet-là, on n'a qu'à regarder à quelle vitesse il se déplace et on sait à quelle distance il est.
Mais alors pour l'instant, on est quand même au stade des constats. Il manque la théorie qui... Enfin, il y a eu l'intuition, je ne sais pas si il faut utiliser le terme d'intuition de Lemaître, mais il manque la théorie qui explique pourquoi elle s'éloigne.
La théorie, elle était là déjà, parce que Einstein s'était trompé. Einstein avait voulu que ce soit stationnaire, mais en fait... quand on enlève la constante qu'il avait rajoutée et qu'il a trouvé plus tard que c'était la plus grande erreur de sa vie, d'avoir ajouté cette constante, en fait, si on n'a pas cette constante, eh ben, l'univers est en expansion et ça sort des équations. Donc le modèle est là, c'est la gravité. Uniquement, la loi de la relativité générale prédit que l'univers est en expansion, même avant qu'on l'ait observé.
Seulement, comme on l'observait pas... S'il avait fait confiance à sa propre théorie, il avait tout juste.
Et voilà. Et voilà. Il ne faisait pas confiance à sa propre théorie. C'est amusant parce que le maître, ensuite, lorsqu'il a, après 1950, tout le monde a oublié cette constante, il dit c'est une erreur. Jusqu'en 1998, on l'a oublié.
Oui, je voulais vous poser la question. Alors, pourquoi y revient-on ?
Ah, alors là, on a découvert quelque chose en 1998.
Alors là,
quelque chose
d'extraordinaire.
Alors,
60 ans.
Oui, alors là, oui, peut-être on reviendra sur les
étapes. Oui, il faudra revenir sur les autres étapes.
Mais là, ça était caractéristique. En 1998, on a essayé de mesurer encore un indicateur de distance, qu'on appelle une chandelle standard, une bougie standard, si on veut. Donc, on a des supernovae d'un certain type qui éclatent. Et puis, leur luminosité intrinsèque est aussi fonction de la durée de vie de cette explosion de supernovae qui dure un mois. Ça a un maximum, puis ça retombe. Et ce maximum et cette retombée est due à la radioactivité de l'élément. Il y a le nickel, le cobalt, etc. Donc c'est quelque chose de physique atomique, finalement, qui règle cette explosion de supernova. Et donc on arrive à savoir à quelle distance elles sont. Et puis on a aussi le spectre, donc la raie des éléments. Et donc on a aussi l'expansion. Et on s'est aperçu que, jusqu'à cette époque-là, on ne prenait les distances qu'avec l'expansion de l'univers. On ne pouvait pas savoir si l'expansion était décélérée, accélérée, etc. Mais l'équation d'Einstein, sans constante, elle nous disait que l'expansion était décélérée. C'est comme quand on a un soufflet, il monte et puis après il redescend. Donc ça doit se décélérer. Et puis qu'est-ce qu'on a détecté en 1998 ? Que ces supernovas étaient beaucoup plus loin que prévu par la loi de l'expansion de Hubble. Donc ça voulait dire que l'expansion s'accélère, s'accélère, s'accélère. Elle est beaucoup...
Alors ça, c'est encore plus contre-intuitif. Car, je vais peut-être dire une bêtise, mais je me lance. Si tout est lié à l'attractivité, mais comment expliquer qu'il n'y ait pas un frein plutôt que l'accélération ?
Voilà, d'où la surprise des astronomes. L'astronome aussi était berlué, puisque on s'attendait à ce que toute la gravité de l'univers retienne l'expansion et que ça se décélère. Donc il a fallu inventer un autre élément, un cinquième élément. Et qui est une quintessence, donc, et qui, au lieu d'avoir un effet attractif, un effet répulsif, donc une pression négative. On ne sait pas du tout ce que c'est, mais on a inventé ad hoc, en quelque sorte, pour avoir un élément qui repousse et non pas attire, et donc explique l'accélération de l'expansion.
Alors, c'est là où on voit tout l'intérêt de ce raisonnement, et pourquoi le Big Bang en lui-même est une histoire, c'est qu'on énonce une théorie, des observations la confirment, d'autres l'infirment, et du coup permettent un progrès supplémentaire dans une compréhension fine, et il y a comme ça tout un raisonnement itératif en quelque sorte.
Voilà.
On passe d'étape en étape.
Voilà. Mais quand on regarde bien, encore une fois, Einstein avait encore tort, parce qu'il avait dit « cette constante c'est une erreur », et donc nous l'avons tous suivi, et jusqu'en 98, on a dit « cette constante est nulle ». Et c'est le maître qui avait encore raison, parce que le maître avait dit « non, non, c'est pas la peine, cette constante, elle va être utile ». Elle peut être très utile, il faut la garder, parce que de toute façon, dans l'équation, s'il y a quelque chose qui est possible, il faut le garder. Et il avait raison, parce que maintenant, une constante cosmologique résout ce problème d'accélération, d'expansion. Donc tout était là en 1915.
Oui, je crois qu'il y a un passage où vous nous expliquez qu'effectivement, il y a des paradoxes étonnants. C'est que la théorie de l'inflation, c'est celle dont nous parlons, n'est-ce pas ?
Là, c'est plutôt l'accélération.
L'accélération,
l'inflation,
d'accord.
C'est avant la première seconde de Big Bang.
En tout cas, des théories sont utilisées pour résoudre un problème, mais finalement, viennent démontrer l'inverse de ce qu'on voulait résoudre et revenir au stade précédent. Donc, ce sont bien des allers-retours. Non seulement un dialogue, mais de véritables allers-retours. Mais revenons justement sur cette histoire, du coup, avant d'arriver tout de suite.
On fait des grands pas.
À nos jours, on fait de grands pas, c'est toujours facile quand on arrive après. lorsque donc cette théorie émerge, et avec donc des différents modèles d'univers, quels sont les modèles alternatifs qui sont présentés par les uns par les autres ?
Alors, il y a toujours une explosion. Alors, il y a plusieurs modèles. Le modèle peut être... c'est la géométrie de l'univers. Alors, la courbure peut être positive. Alors, le modèle d'Einstein, lui, c'était très simple. C'était stationnaire. Et puis, on avait une courbure positive. En quelque sorte, on peut s'imaginer à deux dimensions, parce qu'à trois dimensions, c'est un peu compliqué. À deux dimensions, nous sommes la surface d'une sphère. Donc, l'univers, il est fini. Il est même recourbé sur lui-même. Si on part d'un côté de la sphère, on revient sur son chemin. Et donc il est fini, et puis il est stationnaire. Il a une courbure positive. C'était ça son modèle.
Donc c'est un monde clos.
Clos, en quelque sorte. Mais évidemment, très très grand, donc on n'arrivera jamais à arriver au bord. Mais il est clos, en principe, dans l'esprit. Et puis un modèle où il est parabolique ou hyperbolique, c'est-à-dire la courbure est soit nulle, soit négative. Et là, il est complètement infini. L'univers est infini, il n'y a pas vraiment de limite, on ne revient pas sur soi-même. Donc tout ça, ces modèles existaient, mais il y a toujours un départ très très chaud et très dense. Et pourquoi ? Parce que Gamov, à peu près dans les années 40, avait remarqué qu'il y a une contrainte énorme qui est l'existence de l'hélium. L'hélium, deutérium, des éléments légers que l'on voit dans le soleil, dans les étoiles. Il y a une abondance d'hélium qui est en masse 25%. Après, le reste, c'est l'hydrogène. Et pour avoir cet hélium, il nous faut absolument des réactions nucléaires qui n'ont lieu qu'au début de l'univers. C'est ce qu'on appelle nucléosynthèse primordiale. Et évidemment, dans le soleil, il y a un petit peu d'hydrogène qui brûle en hélium. C'est ça qui fait la luminosité du soleil, mais très peu. En fait, tout l'hélium, il vient du début de l'univers, du Big Bang. Donc, s'il n'y avait pas de Big Bang, on ne pourrait pas expliquer les éléments chimiques, hélium, deutérium, qu'on voit partout autour de nous. Donc ça a convaincu tout le monde que de toute façon, quel que soit le modèle, on est obligé de partir d'un instant zéro où c'est très très dense et très chaud.
Très bien, tant est si bien, tant est si bien oui, ça donne le vertige, cher auditeur, à nous tous. Cela démarre, si j'ai bien compris, par une phase où on parle d'ailleurs d'un âge sombre.
Oui, alors il y a un âge sombre, un tout petit peu après, lorsque le plasma, parce que évidemment c'est très très chaud, donc il faut s'imaginer que c'est ionisé, donc il y a des électrons, des protons, etc. Et ça c'est encore brillant, on peut dire. Et puis ensuite ça va se recombiner, parce qu'évidemment dans l'expansion, ça se refroidit, plus ça se dilue, plus ça se refroidit. Donc au lieu de millions de degrés, on arrive à 3000 degrés. 3000 degrés, et c'est un moment où l'atome se recombine, c'est-à-dire que l'électron et le proton va donner un atome d'hydrogène. Donc c'est un atome neutre qui ne réagit plus avec les photons. Les photons passent dans leur côté, les atomes de l'autre. C'est ce qu'on appelle la recombinaison de l'univers, et c'est là qu'on a un âge sombre, en fait. Il n'y a pas encore de premières étoiles, de premières galaxies, donc c'est assez sombre. Et c'est là que les atomes peuvent, par leur propre gravité, peuvent s'effondrer et former des étoiles. Et ensuite, les premières étoiles vont rééclairer l'univers.
Pour résumer peut-être les choses, puisque maintenant la théorie est relativement établie, nous avons une sorte d'atome originel, extrêmement chaud, extrêmement dense, et ensuite, que se passe-t-il pour arriver ? Peut-être qu'il faut reséquencer les choses, partir des bases.
Oui, alors au début, donc, on a du rayonnement, que des photons, du rayonnement. Le rayonnement est tellement puissant qu'il peut créer, en un rien du temps, une particule et une antiparticule.
Elle s'annule alors.
Voilà, elle s'annihile et il n'y a que du rayonnement finalement. Et ce n'est que lorsque ça se refroidit à une température telle que le photon n'est plus assez chaud pour créer ses particules et antiparticules. Et à ce moment-là, le proton naît en fait. Il ne peut plus s'annihiler avec l'antiproton. Et là, il y a un mystère qui s'est produit, c'est que normalement, on devrait avoir une parfaite symétrie. Encore une fois, on est obligé de penser que notre univers n'a pas été symétrique, parce que sinon, tous les protons et les antiprotons se seraient annihilés, et nous ne serions pas là pour en parler.
Donc nous serions le fruit d'une sorte d'erreur.
Voilà, il y a une erreur, et
c'est beau, ça.
On ne sait toujours pas pourquoi, d'ailleurs. C'est-à-dire qu'il y a un petit excès, alors on sait de combien il y a l'excès, c'est un milliardième d'excès de matière sur l'antimatière. Tout le reste, c'est annihilé. Il reste un milliardième de protons dont nous sommes issus.
D'accord. Première phase. Ensuite.
Donc, première phase, les protons. Alors, il y a des protons, des électrons. Alors, il y a aussi de la matière noire. Il faut dire que c'est quelque chose qu'on a découvert dans les années 30, 40, que la matière ordinaire, protons, électrons, n'était pas la seule chose. Et donc, on est dominé par une matière noire. On ne sait pas ce que c'est, mais à cette époque-là, elle est là. Et c'est même celle qui va s'effondrer et former des structures avant même que la recombinaison, c'est-à-dire avant même que les protons et les électrons se découplent des photons et puissent s'effondrer et former des galaxies. Donc finalement, on a des galaxies de matière noire qui se forment d'abord. Et heureusement d'ailleurs, parce que sinon, la matière ordinaire n'arriverait pas à former des galaxies, il n'y a pas assez de temps. Donc heureusement, la matière noire se forme d'abord. forment des structures, des galaxies, etc. Et ensuite, la matière tombe dans ces galaxies et forme des étoiles. Donc là, on a cette séquence. On a une période sombre où les étoiles ne sont pas là. Et puis, dès que les étoiles se forment dans les galaxies de matière noire, les étoiles se forment. Et à ce moment-là, on va même envoyer des rayonnements UV, gamma, des rayonnements énergétiques qui vont rayonniser l'univers. Parce que l'univers, entre les galaxies, c'était de l'hydrogène neutre, l'atome. Et donc, les rayonnements UV vont rayonniser même tous les atomes d'hydrogène à l'intérieur, enfin entre les galaxies. C'est ce qu'on appelle rayonisation de l'univers. L'univers va tout rayonniser. Donc ça, c'est plusieurs périodes.
On comprend mieux pourquoi on parle d'astrophysique.
Oui, c'est de la physique, c'est vrai.
Et que le vide n'est pas du vide.
Ah voilà, le vide n'est pas du vide. Et ça on a eu un certain temps à s'en rendre compte, puisque c'est de la mécanique quantique. Et ça, on s'en rend compte dans les expériences de physique, justement. Où on fait l'expérience de physique quantique, on s'est aperçu que l'état zéro, lorsqu'il n'y a rien, mais rien, enfin le vide, et c'est pas exactement rien, il y a un peu d'énergie du vide, voilà. Et donc le vide interstellaire, intergalactique, c'est un vide un petit peu quantique, et donc il n'y a pas rien, il y a un petit peu d'énergie.
Et avant la création de l'univers, il y a forcément quelque chose aussi. Enfin, je peux faire des réflexions à la Lavoisier.
Oui.
S'il y a un atome originel, il provient bien, enfin, mon sens commun un peu plus vivant, m'incite à penser qu'il provient de quelque chose.
Et voilà, on s'est posé la question, bien sûr, et la solution actuelle, bien que ce soit pas certain, enfin, on ne sait pas trop si c'est la bonne, c'est une hypothèse, hein, on n'a rien vérifié, mais l'hypothèse est que notre univers vient de l'énergie du vide, justement. Donc, l'énergie du vide, on sait qu'il y a des fluctuations positives et négatives. En moyenne, c'est zéro. Et on peut penser qu'il y aura une inflation. Cette fois-ci, c'est la théorie de l'inflation.
Alors, venons-en, parce qu'elle est passionnante, celle-ci. Voilà. Allons-y à fond, sur la théorie de l'inflation.
Alors, la théorie de l'inflation, vraiment, le Big Bang est bien consolidé. Par contre, l'inflation, c'est vraiment une hypothèse encore. Il faut prendre avec des pincettes. Mais pour l'instant, c'est la seule chose qui explique bien tout ce qu'on observe. Donc, c'est la meilleure pour l'instant. Et alors, cette théorie de l'inflation dit qu'en 10⁻³² secondes, c'est-à-dire en moins de temps qu'il ne faut pour le dire, parce que c'est une tellement petite fraction de la seconde, donc une toute petite fraction de la seconde, l'univers va passer, du moins une petite partie de l'univers qui est une fluctuation positive de l'énergie du vide, va passer d'une taille microscopique, de 10⁻³ cm, donc vraiment quantique, à une taille macroscopique, 1 cm par exemple. Donc il va y avoir 10⁻³, c'est-à-dire 30 ordres de grandeur, d'augmentation en une fraction de seconde. Et c'est ça l'inflation. Donc, c'est quand même très différent de l'expansion, parce que l'expansion est quand même 13 milliards d'années, et on augmente d'un facteur 1000, mais là on augmente de 10⁻³ en très peu de secondes.
Alors ça, c'est un phénomène ponctuel ou qui se poursuit encore?
Alors, dans notre cas, il s'est arrêté. Dans la première seconde, il s'est arrêté. Et c'est pour ça que nous sommes
dans
là.
Dans notre cas, c'est...
Dans notre univers à nous.
Univers,
voilà.
D'accord.
Dans notre univers à nous, ça n'a duré que 10⁻³ secondes, et puis ça s'est arrêté. Et ça s'est arrêté, et ça a donné notre univers. Donc ça veut dire que nous sommes... tout notre univers est né d'une fluctuation du vide, en quelque sorte.
Alors, nous avons parlé de ce qu'il y avait avant le début. On dit le Big Bang, c'est le début. Il y a un avant le début. Alors on a compris qu'après notre galaxie, il y avait d'autres galaxies dans un univers qui est notre nouveau territoire.
Voilà. Alors nous, on peut se demander quelle est la taille de notre univers, par exemple. Hein, vous parlez de galaxies. Et c'est vrai qu'on a observé avec le télescope Hubble. Cette fois-ci, on a donné un nom de Hubble à le télescope spatial, le premier télescope spatial envoyé par la NASA. Et ce télescope a pu justement aller très très loin. Alors pourquoi, pourquoi on envoie un télescope dans l'espace alors qu'on peut regarder au sol? C'est que l'atmosphère nous empêche d'avoir des images bien fines. Et l'atmosphère est turbulente, etc. Donc si on l'envoie au-dessus dans l'espace, alors on a des images très très piquées et on peut voir très loin. Alors que sinon, on est tellement bougé.
Et dans l'espace, voir très loin, c'est voir très
loin remonter dans
le temps.
Dans le temps, voilà. Et on a remonté dans le temps avec le télescope Hubble. Donc le temps, alors combien de temps? Eh bien on a pu remonter 13 milliards d'années. Alors là, l'univers c'est 13,8. Donc on a pu remonter jusqu'au Big Bang. C'est-à-dire voir les photons qui nous sont émis par les galaxies telles qu'elles étaient au début, dans leur jeunesse.
Oui, on arrive jusqu'au lendemain du Big Bang.
Voilà. Donc, et on a pu ainsi voir 300 milliards de galaxies environ. Alors, ce chiffre-là, c'est un chiffre qu'on n'avait évidemment pas compté, qu'on a pris un petit peu dans une petite région et l'extrapole à tout l'univers, mais ça dépend aussi de la masse de ces galaxies. C'est un chiffre qui fluctue un petit peu. Au début, on est 300 milliards, maintenant on dit 400 milliards. Ça dépend si on prend des grosses galaxies, des petites. Si on va jusqu'aux petites, évidemment, ça fera 500 milliards de galaxies, etc. Mais c'est un peu le nombre de galaxies que l'on a dans notre horizon. Alors, on peut définir maintenant l'horizon, puisqu'on sait que c'est tout ce qu'on va pouvoir voir de cet univers qui est sans doute infini, mais dont les galaxies qui sont au-delà de l'horizon ne pourront jamais nous envoyer de la lumière, puisqu'il faudrait plus que 13 milliards d'années pour que ce photon nous arrive. Donc on voit bien que si on remonte le temps, on peut remonter que jusqu'au Big Bang.
D'accord. J'ai un petit peu de mal, je suis désolé, il faut revenir à des définitions là où on frôle la métaphysique, mais si on considère notre univers, c'est donc celui qui est né de cet atome, mais c'est une définition qui ne résout pas tout à fait le problème en quelque sorte, c'est-à-dire il y a forcément quelque chose au bout. Alors, il y a une frontière, il y a un ailleurs.
Voilà. Et ça, on arrive dans le problème des possibles, et on n'en sait pas grand-chose, hein, puisque tout ce qui est au-delà de notre horizon, on ne pourra pas le voir. Donc tout ça est un petit peu supposé. Il y a beaucoup de modèles là, à ce moment-là, parce que par exemple, le Big Bang, on a dit que ça pouvait venir de l'inflation. Il y a des gens qui n'aiment pas l'inflation.
Mais alors pourquoi ?
Alors, parce qu'ils supposent que c'est un petit peu tiré par les cheveux. Bon, il faut bien le dire quand même, 10-30 secondes, etc.
On n'est plus à ça près.
Mais c'est un petit peu les autres, Fred Hoyle, qui n'aimait pas le Big Bang déjà, mais il y en a qui n'aiment pas l'inflation. Et puis pourtant, l'inflation a été bien vérifiée par le satellite Planck, qui a justement regardé... Alors, on n'a pas parlé de ça. C'est qu'on a une des preuves du Big Bang qui est fondamentale, c'est le rayonnement diffus cosmologique, qui est le vestige du Big Bang. Alors, le Big Bang était très chaud, et puis quand il est dans l'expansion, il se refroidit, et les photons deviennent de plus en plus froids. Et aujourd'hui, ils font 3 degrés Kelvin, ces photons-là. Et c'est les photons qui nous viennent du Big Bang. Il faut quand même donner une idée à notre auditeur et qui nous écoute. Est-ce que ces photons du Big Bang dominent ? En fait, oui, quand on regarde, ils ont une longueur d'onde millimétrique. Hein, c'est comme un four micro-ondes. On a des longueurs d'onde qui sont de cette taille-là. Et si on avait un œil qui était sensible à cette longueur d'onde, eh bien, on serait dominé par le Big Bang. On ne verrait même pas la galaxie. C'est 100 à 1000 fois plus fort que la galaxie dans cette longueur d'onde-là. Donc,
on serait ébloui, en quelque sorte.
On serait ébloui. On serait dans un brouillard. Et donc, c'est ce qu'il a fallu faire avec le satellite Planck. Mais il y avait le satellite Kobe avant, le satellite WMAP. On a fait la carte du ciel dans cette longueur d'onde. On commence par voir un brouillard. Et puis, on retire la constante qui est ce brouillard. Et puis, on commence à voir la Voie lactée. Puis, on retire les galaxies. Et c'est là qu'on voit les vestiges du Big Bang. C'est-à-dire les photons qui nous arrivent du Big Bang tels que. Et donc, à ce moment-là, on voit quoi ? On voit des petites fluctuations qui ont donné naissance aux galaxies qu'on voit aujourd'hui. Donc, c'est des fluctuations d'énergie qui nous viennent tels que, parce que le photon, il n'est plus dévié après, il ne rencontre plus la matière, donc il nous vient tel que du Big Bang.
Nous serions encore dans le Big Bang, en quelque sorte.
On y est encore, en fait, dans un centimètre cube, il y a 400 photons du Big Bang qui sont là. Donc c'est beaucoup, on est traversé par des milliards de photons.
Je suis en train de faire une évaluation de la pièce, du nombre de photons.
Et donc ce fond cosmologique a été découvert par hasard, par Penzias et Wilson dans les années 65. Ils ont eu le prix Nobel pour cela. Ils voulaient juste détecter des signaux de satellites artificiels pour la télécommunication. Donc ils ont détecté ce bruit qui les gênait beaucoup.
C'est un des passages préférés du livre, parce qu'on sent qu'on peut faire des découvertes.
C'est formidable.
On est quasiment dans l'artisanal. Hein.
Ah oui, c'est un grand cornet. Et puis
expliquez-nous comment ça se passe, parce que c'est fascinant.
Ils prenaient un grand cornet dans leur jardin, enfin le jardin de Bell Laboratories, quand même, dans le New Jersey. Et puis, ce qu'ils voulaient, en fait, c'est avoir des satellites artificiels qui réfléchissent nos signaux pour rendre les télécommunications plus faciles. Donc, il y aura un signal qui est envoyé, et puis ensuite, on le réfléchit pour l'envoyer ailleurs sur Terre. Donc, ils voulaient savoir si c'était détectable et quel récepteur il fallait avoir. Donc, ils ont envoyé. Mais ils étaient gênés par ce bruit, et ils pensaient que c'était leur appareil qui était fautif. Ou ils avaient même nettoyé le cornet de tous les fientes de pigeons, parce que peut-être c'était quelque chose. Mais finalement, c'est resté dans tous les endroits possibles, le jour, la nuit, les saisons. Et donc, c'était universel, partout. Et en ce même moment, il y avait des gens à Princeton qui essayaient de calculer quelle pourrait être la température de rayonnement fossile du Big Bang. Et donc, quand ils ont mis en contact les deux groupes, ils ont dit « Ah oui, ben c'est peut-être ça ». Mais on ne pouvait pas savoir que c'était à 3 degrés Kelvin, on ne savait pas la température initiale. les stéroïciens avaient pensé, bon, on va peut-être trouver un rayonnement à 40 degrés, K, et 3K, c'était pas mal. Hein, à partir de milliards de degrés, tomber aussi juste, c'était pas mal.
Et quel est l'enjeu de savoir que ça fait telle ou telle température?
On peut savoir tout ce qui s'est passé depuis le début. Enfin, ça remet en place quels étaient le moment où il y avait le rayonnement, le moment où il y avait des particules, le moment où il y avait la matière, antimatière, des quarks, etc. Tout ça se relie dans ce schéma. À l'époque, on ne connaissait pas les quarks, donc on ne pouvait pas le savoir. Donc tout ça remet en place, et maintenant on a un schéma qui rentre parfaitement. C'est même incroyable que ça marche si bien.
Les débats ne portent donc plus que principalement sur cette inflation, au-delà du fait que ça semble incroyable. Qu'est-ce qu'on lui reproche à cette théorie
Alors, cette inflation, il y en a qui trouvent que c'est un petit peu tiré par les cheveux, que c'est. Il y a des vides quantiques qui se développent tout d'un coup. Bon, il est vrai que ça a été fait un petit peu ad hoc aussi, parce qu'il y a un gros problème de l'horizon de l'univers. Alors, je vais essayer peut-être d'en donner une petite notion. Donc, on a un horizon autour de nous. Chaque observateur dans l'univers a un horizon qui est une sphère qui a pour rayon le chemin qu'a parcouru le photon depuis le Big Bang. Donc, comme il y a 13,8 milliards d'années depuis le début, donc la lumière a parcouru 13,8 années-lumière. Et donc, notre horizon, c'est ça. Et au-delà, évidemment, il y a sans doute plein de galaxies, mais on ne les verra pas. Et chaque observateur a son horizon. Mais les autres parties de l'univers ne sont pas reliées causalement. Elles ne se connaissent pas, puisqu'il faudrait un messager qui va plus vite que la vitesse de la lumière. Ça, c'est impossible. Et par contre, quand on regarde le ciel dans le fond cosmologique, le satellite Planck, par exemple, qui a cartographié tout le ciel, ce qu'on voit, c'est l'univers tel qu'il était 400 000 ans après le Big Bang, vraiment très proche du Big Bang. Et ce qu'on voit, c'est une uniformité totale, c'est-à-dire qu'il a la même température à un cent millième près. Tout petit, donc c'est vraiment la même température. Mais l'horizon, il ne faisait que 400 000 ans à cette époque-là, puisque l'univers ne faisait que 400 000 ans. Donc il est tout petit, quand on regarde, ça fait un degré dans le ciel. Donc il y en a au moins 40 000 horizons. Pourquoi tous ces horizons ont exactement la même température à un cent millième près? Alors qu'ils ne se sont jamais dit, tiens, toi, tu dois être à cette température-là, toi, tu es à cette température-là, puisqu'ils ne se connaissaient pas. Donc ça, c'est un problème énorme. Et l'inflation, on le résout, ce problème, puisque finalement, si on rentre en expansion d'énormes facteurs, tous ces horizons viennent du même vide quantique. Et donc, ils étaient corrélés au départ. Donc, l'inflation a été créée pour ça, pour le problème d'horizon, et aussi un petit peu le fait que l'univers est plat, il n'y a pas de courbure du tout. Et quand on voit qu'on gonfle un ballon énormément, le ballon est si grand que quand on est tout près de la tangente, on a l'impression que c'est plat. Ça aussi, c'est une façon de résoudre pourquoi notre univers est si plat, alors qu'il aurait pu être courbe dans la plupart des cas. Donc, on a résolu beaucoup de problèmes, et puis quand même, c'est un peu ad hoc. Et donc, il y a certains qui proposent que ce Big Bang n'est pas... Il n'y a pas une inflation au début, mais il y a un univers cyclique. Donc, il y a un Big Bang, puis après, on retombe en Big Crunch, et puis on repart un Big Bang, etc.
Mais dans un cas comme dans l'autre, notre destinée
sera très... Oui, c'est un petit peu sinistre, notre destinée, oui.
Puisque la théorie du Big Crunch, si je comprends bien, on part d'une expansion à une recondensation... Un nouvel atome.
Voilà, primitif, très très dense et très chaud aussi.
Primitif, à nouveau primitif, et puis on repart, et comme ça, sur une série de cycles. Tandis que dans la théorie de l'inflation, ça ne résout pas parce que, si je ne me trompe pas, on se refroidit tellement.
Voilà, on va se refroidir, et là, si on extrapole ce qu'on a découvert, puisque l'expansion est accélérée, donc on...
Ça va de plus en plus vite.
De plus en plus vite. Ça va être exponentiel.
Comme notre propre vie.
Voilà.
Ça va de plus en plus vite.
C'est exactement ça. Et donc, on va devenir de plus en plus dilué, dilué, dilué. Alors évidemment, c'est peut-être pas raison d'extrapoler. On sait bien en bourse que si on extrapole les montées, en fait, c'est pas vrai, on va redescendre. Donc, on ne sait pas.
Si la bourse obéissait aux lois de la physique, on saurait.
Donc, c'est peut-être déraisonnable d'extrapoler ce qu'on connaît aujourd'hui. Mais si on extrapole, il n'y a pas de problème. On va devenir de plus en plus dilué et froid.
Parce que la température est liée à la densité, c'est ça ?
Voilà. Et dans l'expansion, on refroidit. Hein. C'est comme le ballon, il est très chaud. Et donc, même les galaxies vont se défaire au bout d'un moment. Parce que pour l'instant, les galaxies ne sont pas en expansion. On est liés gravitationnellement. Donc la gravité nous empêche Donc les étoiles qui nous envisolent sont toujours à la même distance. Même si les galaxies très lointaines s'éloignent de nous, les étoiles ne s'éloignent pas. Elles sont reliées gravitationnellement, donc pour l'instant on est assez stable. Mais même les galaxies pourraient s'en aller,
se disloquer. Mais comme vous me le disiez en préparant l'émission, ce n'est pas la peine de s'angoisser pour ce type de questions, car le Soleil va s'éteindre avant.
Oui, voilà. Ce n'est pas qu'il va s'éteindre, c'est qu'il va devenir une géante rouge.
Ah, oui.
Une géante rouge. Lorsqu'il aura fini de brûler son combustible d'hydrogène pour former de l'hélium, le cœur du moins sera complètement hélium, etc. L'enveloppe va rentrer en expansion. Ça va être une énorme étoile, 100 à 1000 fois plus grande que la taille actuelle. Et donc elle va griller toutes les planètes qu'il y a, donc Mercure, Vénus, la Terre seront volatilisées. Donc ça, c'est dans 3-4 milliards d'années. Et même avant, comme la géante rouge est beaucoup plus chaude que le Soleil, la Terre va déjà perdre tous ses océans, va volatiliser. Là, c'est le réchauffement climatique va être très rapide.
Difficile à conjurer.
Oui. Il y aura plus d'eau, quoi. Il y aura plus d'eau, plus d'océans. Donc, même avant que la Terre soit volatilisée, elle sera invivable. Il faudra peut-être partir sur une autre planète. Hein. Là, on pourra quand même déjà. Si on a résolu...
C'est-à-dire qu'on peut s'échapper de cette première perspective dans notre propre galaxie.
Oui,
on peut tracer loin dans notre propre galaxie.
Ah oui, parce qu'on a découvert récemment, depuis une vingtaine d'années, on a découvert des tas de planètes extrasolaires, donc dans d'autres étoiles.
Donc c'est le système solaire qu'il faut quitter. Là.
Voilà. On va, là, par exemple, le système Proxima B du Centaure, qui est une planète habitable, on dirait. Elle est à 4 années-lumière de nous. Donc c'est possible. Il faudra quand même des voyages très longs, avec plusieurs générations peut-être qui y ont, mais on peut très bien imaginer un vaisseau spatial qui se déplace sur une autre planète.
En revanche, des contacts entre galaxies, c'est totalement...
Alors là, par contre, voilà.
Du hasard, de la chance...
Ah oui, non, ça c'est beaucoup trop loin.
C'est une question plus personnelle. Comment, lorsqu'on vit dans ces travaux et on arrive quand même à une vision non plus seulement sur les origines, mais sur les fins dernières qui sont vraiment des fins, comment vit-on avec cette perspective? Parce que finalement, la vie est belle, la Terre est belle,
mais
la galaxie aussi est très belle.
Il y a une destruction, c'est vrai, mais on n'a pas encore en effet évoqué les multivers, qui est une autre hypothèse qui peut être plus rassurante, qui est liée à l'inflation, parce que l'inflation, on l'a inventée en 1980-81, il y avait Alan Guth, et puis ils ont pensé que l'inflation était instantanée et puis ensuite s'arrêtait, ce qui est le cas dans notre univers. Mais quand on regarde bien, elle ne peut pas s'arrêter. Il y a beaucoup... En fait, il s'agit d'un vide entre plusieurs univers qui est en expansion accélérée tout le temps. Et de temps en temps, il s'arrête, et puis de temps en temps, on ne peut pas l'arrêter. Et donc, il est possible qu'il y ait plein d'univers, alors jusqu'à l'infini, bien sûr, plein d'univers qui renaissent et puis meurent, naissent et meurent, etc. Donc, on arrive encore à l'idée qu'avait Einstein de quelque chose quasi stationnaire, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. En fait, il y a des tas d'univers qui naissent et qui meurent tout le temps.
On prend le problème.
Voilà. À très, très grande échelle, il se peut qu'il y ait toujours des univers qui renaissent.
Nous sommes mortels, les civilisations sont mortelles, la Terre est mortelle.
Mais il y a encore d'autres univers.
Notre galaxie aussi, notre univers
est
aussi. Mais c'est pas grave.
Mais c'est pas grave, d'autres univers vont prendre le relais. Et peut-être encore plus beau, oui. Qui sait?
Écoutez, finalement, on en revient au point de départ. C'est comme lorsqu'on regarde le ciel spontanément. Nous sommes peu de choses, sommes quand même des êtres pensants.
Qui pouvons imaginer tout ça.
Imaginer et décrypter tout cela. Qui pouvait imaginer... il y a finalement pas si longtemps, même au néolithique, arriver aussi rapidement à
de façon exponentielle.
De telle théorie. Et quelle accélération, là aussi, sur la fin.
Ah oui.
c'est peut-être avec cette pensée qu'il faut conclure un appel à poursuivre.
Il y a encore énormément de choses à découvrir et je pense que c'est une note positive tout de même.
Et c'est un domaine qui bénéficie encore d'un soutien public ou privé d'ailleurs, réel. Est-ce qu'il y a des perspectives de carrière dans ce type de recherche?
Par exemple, on n'a pas parlé de tous les mystères, mais on a bien vu que pour former des galaxies, il fallait de la matière noire. On ne sait toujours pas de quoi elle est faite. Il y a l'énergie noire qui accélère l'expansion, tout ça on ne sait pas. On va avoir des satellites comme Euclide qui va être lancé dans un an ou deux. et vont justement s'attaquer au problème. Donc là, il y a énormément un espace de découverte énorme. Et on va peut-être pouvoir prouver l'inflation. On avait cru pouvoir le prouver avec le satellite Planck. Et là, on va peut-être lancer un successeur à Planck pour avoir une preuve. Alors, la preuve de l'inflation, ce serait les ondes gravitationnelles primordiales. On a détecté les ondes gravitationnelles depuis 2015, mais c'était des trous noirs qui arrivaient en fusion. Et là, ce Big Bang, il a créé des ondes gravitationnelles, puisqu'il a ébranlé l'espace. Et si on arrive à détecter ces ondes gravitationnelles, on aura prouvé l'inflation, donc on aura fait énormément de progrès.
Merci beaucoup. À tout jeune auditeur, c'est une matière qui a toujours passionné les jeunes enfants. Ensuite, ils passent à d'autres choses, les téléphones portables, les filles, des choses comme ça. Mais il y a un âge où ils sont fascinés, à juste titre d'ailleurs, par toutes ces questions. Si pour les nourrir, au-delà du que sais-je, qui est plutôt d'un niveau quand même post-adolescent, on va dire, hein, ou adolescent en faisant des études, se destinant à des études scientifiques, mais pour nourrir leur curiosité, quel conseil
Il y a beaucoup de livres sur le Big Bang. Il y a un livre qu'a écrit mon confrère Jean-Philippe Usan, Le Big Bang, ça s'appelle aussi.
Et au-delà
c'est
des,
plus philosophique des livres, un petit peu plus. Et...
Y a-t-il des filières bien établies? Quel type d'études faut-il
Il faut faire des études de physique, c'est sûr. Hein, des études de physique, maths, physique, et n'importe quelle physique, finalement. C'est la méthode, les méthodes qui sont importantes et la façon dont est formé l'esprit logique et curieux. Il faut être curieux et avoir de l'imagination.
Comme beaucoup de matière dans la vie.
Voilà.
Beaucoup.
Merci.
Je renvoie quand même nos auditeurs à votre ouvrage concis et passionnant. Et vous rend des perspectives aussi larges que l'univers. En tout, voilà, nous met en face de l'abîme et aussi de connaissances passionnantes. Le Big Bang aux éditions Presse Universitaire de France, la collection Que sais-je par Françoise Combes. Merci beaucoup pour cette exploration.